Seigneur, nous avons besoin de ta grâce pour toutes choses, y compris pour bien comprendre ta parole, savoir comment l'appliquer dans nos vies en Jésus-Christ. Ô Père, dirige-nous. Merci de nous avoir pardonnés par la croix de Jésus. Merci de nous avoir sauvés. Merci de nous avoir donné ton Saint-Esprit. Et guide-nous maintenant. En son nom, nous prions. Amen. Alors, le message de ce matin s'intitule « Pour un moment comme celui-ci ». Esther, une jeune de foi. Quand j'étais plus jeune, c'est Cheryl qui parle. Les concours de beauté étaient quelque chose d'important. Il y avait les concours de Miss America et Miss Univers. Et il y avait même Toddlers and Tiaras. Ça, c'est un concours de beauté pour les enfants. Je ne sais pas si ça existe encore. Et les enfants défilaient sur scène avec des tenues extravagantes, avec l'espoir de remporter le premier prix de beauté. Regardez comment elles sont petites. C'était un empire télévisuel étrange, addictif malheureusement, et aussi, malheureusement, il y avait une certaine exploitation des enfants et des femmes dans ce domaine. Aujourd'hui, nous allons tirer quelques leçons importantes de l'histoire d'une jeune femme qui, elle aussi, a remporté un concours de beauté, Esther, dans l'Ancien Testament. Elle a été utilisée par Dieu pour sauver son peuple. La nation de Juda avait été emmenée en exil et en captivité à Babylone pendant 70 ans. Après, Babylone est devenue comme une section de l'Empire des Perses. Durant toutes ces années-là, nous découvrons une histoire à travers de nombreux prophètes comme Ézéchiel, Daniel, Zacharie, et aussi des personnages qui ont aidé à reconstruire Jérusalem et le temple de Jérusalem durant cette époque, Esdras, Néhémie. Et c'est une période fascinante, et c'est durant cette période que nous allons voir l'histoire d'Esther. Mais c'est la même période où se situe l'histoire qu'on a vue la semaine passée, pour ceux qui étaient ici, Shadrach, Meshach et Abednego, les trois amis de Daniel. Et on a vu que la leçon, c'était que des fois, nous passons par le feu parce qu'on obéit à Dieu. C'est ça qui leur est arrivé. Mais Dieu est venu les accompagner dans le feu. Alors, dans le livre d'Esther, on fait la connaissance d'une jeune femme courageuse qui, elle aussi, risque sa vie pour protéger son peuple, parce que Dieu lui demande de le faire, et elle le fait. Évidemment, c'est Esther elle-même. C'est une jeune femme réfugiée juive dans l'Empire perse, dans la ville qui s'appelle Suse. Elle est élevée par son oncle Mardoché. En réalité, ce sont des cousins, mais comme il est plus vieux et comme il l'a pris en charge, on l'appelle son oncle. Et Esther a été obligée de participer à un concours de beauté imposé par le roi de Perse, Xerxès, qu'on appelle aussi Assuérus. Assuérus, c'est la traduction latine de Xerxès. Demandez-moi pas pourquoi, mais en tout cas, c'est la même personne. C'est le même nom. Et il semble qu'Esther et son oncle Mardoché, il y en a qui prononcent Mardoqué, mais c'est, en tout cas, moi je vais dire Mardoché, et les deux cachaient leur identité juive parce qu'ils vivaient dans un empire qui pouvait être violent et qui était anti-juif. Alors, lorsque le roi Xerxès, un soir de fête sous l'emprise de l'ivresse, il avait trop bu, il s'est mis en colère parce que son épouse, la reine Vashti, refusait de lui obéir devant les invités. Il a banni la reine Vashti de son palais et il a décidé de la remplacer par une nouvelle jeune reine d'une plus grande beauté. Alors, lisons comment ça s'est passé, tout ça, dans Esther, chapitre 2, versets 1 à 4. Attendez. Voilà, oui. Je ne sais pas si vous voyez, mais en tout cas, écoutez bien. Après ces événements, une fois sa colère apaisée, le roi Xerxès pensa avec regret à sa reine Vashti, ce qu'elle a fait et la décision qu'il avait prise à son sujet, puisqu'il l'a bannie. Mais les jeunes serviteurs du roi lui dirent qu'on recherche les jeunes filles qui soient vierges et belles pour le roi, que le roi désigne dans toutes les provinces de son royaume des inspecteurs chargés de rassembler toutes les jeunes filles vierges et belles et les amener à Suse, la capitale, dans le harem, sous l'autorité des Gaïs, l'eunuque du roi responsable des femmes. Il leur fournira des produits cosmétiques nécessaires et la jeune fille qui plaira au roi deviendra reine à la place de Vashti. Le roi trouva bon ce conseil et s'y conforma. Il s'est laissé convaincre. Alors, c'est vraiment un passage désagréable, alarmant, de la manière que les femmes, les jeunes filles sont traitées, les abus de pouvoir impliqués ici. La Bible ne précise pas l'âge d'Esther, mais on peut imaginer que si le roi était à la recherche de jeunes filles vierges, elles étaient probablement, à cette époque-là, dans cette culture-là, des adolescentes. Et la Bible ne dit pas non plus si Mardochée était obligé d'inscrire sa nièce à ce concours de beauté ou si c'est lui qui l'a forcé. En tout cas, il y a peut-être eu un abus de pouvoir là aussi. On ne sait pas. La Bible ne le dit pas. Mais au verset 11, il est dit un peu plus loin dans le chapitre que Mardochée était et restait près du palais pour s'assurer que sa nièce allait bien, qu'elle était bien traitée. Et il l'encourageait, comme lui aussi faisait, de cacher son identité juive. Pendant un an, la jeune fille Esther a suivi les soins de beauté imposés par l'eunuque du roi. Et Esther, elle a gagné la faveur de tout le monde dans le palais. Et elle a comme obtenu une position privilégiée. Mais il ne faut pas oublier qu'elle était dans une situation forcée, indésirable, abusive. Mais Dieu était là, proche d'elle, dans cette épreuve difficile. Lorsque son tour arriva d'aller vers le roi, Esther, fille d'Abishaïl, qui était l'oncle de Mardochée, celui qu'elle avait adopté, ne réclama que ce que lui conseilla Hegai, l'eunuque du roi responsable des femmes. Esther gagnait les faveurs de tous ceux qui la voyaient. Elle était belle, elle était charmante, elle était obéissante et le Seigneur était avec elle. Esther fut conduite vers le roi Xerxès dans son palais royal le 10e mois, c'est-à-dire le mois de Tébet, durant la 7e année du règne de Xerxès. Et le roi préféra Esther à toutes les autres femmes. Elle gagna ses faveurs et sa sympathie plus que toutes les autres jeunes filles. Et le roi, comme vous voyez dans la photo, il a mis la couronne de la reine sur la tête d'Esther et la proclama reine à la place de Vasti. Le roi organisa un grand banquet pour tous ses princes et serviteurs, et ce, en l'honneur d'Esther. Il accorda aussi des dispenses d'impôts aux provinces et distribua des cadeaux avec une générosité toute royale. Donc, c'est comme la célébration d'un mariage, mais en quelque sorte, c'est pas un mariage habituel ou comme nous, on les comprend. Il y avait un élément imposé à cela sur cette jeune fille, Esther. Donc, tout à coup, cette jeune réfugiée juive devient reine. Par la volonté de Dieu, Esther occupe désormais une position stratégique au sein de l'Empire. Et on va voir bientôt les implications de ceci, parce que Mardoché, son oncle, par Esther, obtient aussi une place privilégiée ou une influence. Maintenant, une chose étonnante, c'est que le nom de Dieu n'est jamais écrit, mentionné dans le livre d'Esther. Et en même temps, Dieu est l'acteur principal. Il joue le rôle clé dans l'histoire. Et ça, c'est une leçon importante de ce livre. C'est intéressant que la leçon vient par ce qui n'est pas dit. Le nom de Dieu n'est pas dit, mais ça montre que, parce qu'on lit, en lisant, on voit qu'il est tout le temps en action, c'est que Dieu place son peuple, place ses enfants là où il faut pour accomplir ses desseins. Amen. Est-ce que toi, tu peux confier à Dieu les circonstances de ta vie? Même lorsque tu ne comprends pas ce qui se passe, même quand tu ne le vois pas, Dieu peut paraître silencieux. Tu ne le vois pas. Tu ne vois pas son nom apparaître, ni mentionner. Peut-être que tu n'entends pas audiblement sa voix parler. Mais il est toujours à l'œuvre dans ta vie et dans la vie de son peuple. Amen. Nous avons le même Dieu d'Esther et nous sommes encore plus proches de lui à cause de ce que Christ a fait pour nous faire entrer dans la famille de Dieu. Et Cheryl et moi, on connaît un professeur de théologie qui a été très encouragé dans sa vie avec Dieu par une situation extraordinaire où Dieu était invisiblement à l'œuvre. Voici comment il raconte l'histoire. Ce professeur, il dit, « Eh bien, je revenais d'une conférence missionnaire dans une autre ville. Sans raison particulière, je m'arrête à l'Institut de théologie avant de rentrer chez moi. » Donc, il passait par son bureau avant de rentrer à la maison. « Et j'y croise un étudiant. Et il me dit qu'il veut se suicider. Alors que notre rencontre n'était pas du tout planifiée, j'ai pu tout de suite intervenir, le mettre en contact avec un psychiatre évangélique, et cela a évité son suicide. Et je l'ai rencontré bien des années plus tard. Il m'a expliqué alors qu'à l'époque où je l'ai rencontré, il n'était pas encore véritablement chrétien, mais qu'il s'est converti ensuite. Cette rencontre est pour moi un petit signe que le Seigneur voulait m'utiliser. Amen. Vous voyez une histoire comme ça d'un grand professeur qui enseigne la parole de Dieu, mais pour lui, c'est une petite chose comme ça où Dieu est invisible, son nom n'est pas mentionné, mais il a placé son serviteur au bon endroit, au bon moment. Alors, revenons à Esther, elle est maintenant reine du palais à Suse. Et Mardoché, il reste proche, discrètement, et il écoute, il entend et découvre par hasard à travers une conversation qu'il entend par hasard, l'existence d'un complot visant à assassiner le roi Xerxès. Mardochée signale le complot à Esther et Esther intervient. Elle parle au roi et qu'est-ce qui se passe? Le complot est découvert et... Excusez-moi. Les coupables sont arrêtés. On les voit ici, en bleu. Jugés, condamnés, exécutés, empalés. Alors, Cheryl voulait que je vous dise le mode d'exécution. Le roi a été sauvé. Et l'incident a été écrit dans les registres du roi, y compris l'implication du juif Mardochée. Wow! Tout va bien, mais ce n'est pas fini, malheureusement, parce que dans la cour du roi, il y a des personnes particulièrement méchantes. Et au chapitre 3, on fait la connaissance de Haman, ou Aman, le principal conseiller du roi, une sorte de premier ministre. Et la Bible nous dit qu'il était orgueilleux et méchant. Aman, principal conseiller du roi. Alors, quand la Bible dit que quelqu'un est méchant et orgueilleux, bien, c'est comme une thématique que la Bible dit souvent. Il nous dit qu'il ne faut pas qu'on aille dans la direction, qu'on développe les traits de caractère des orgueilleux et des méchants. Voici comment ils sont décrits dans le livre des Proverbes. Alors, si vous ne voyez pas, écoutez bien. Proverbes 6, à partir du verset 16. Il y a 6 choses que l'Éternel déteste, et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui versent le sang, le cœur qui médite des projets injustes, les pieds qui se dépêchent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui provoque des conflits entre frères. Je veux que personne dans cette salle ait aucune de ces caractéristiques, d'accord? Mais ça décrit malheureusement le personnage de Haman. C'était un homme orgueilleux et méchant. Et un des problèmes d'Aman, il détestait les Juifs. Il voulait les détruire, les anéantir. Aman s'attendait à ce que Mardochée, qui était juif, et lui le savait, et qui se tenait à l'extérieur du palais, s'attendait que Mardochée s'incline, se prosterne devant lui, Aman, chaque jour lorsqu'il passait à travers les portes du palais. Mais Mardochée refusait. Vous savez, c'était l'attitude. C'est un juif, il est inférieur à nous, c'est un étranger, il n'a pas d'affaires ici, c'est parce que nous le tolérons qu'il est ici. Montre-moi ton infériorité, exprime ma supériorité, prosterne-toi devant moi. Hélas, il y a des attitudes comme ça encore dans notre monde aujourd'hui et même dans notre propre pays. Et c'est des formes de méchanceté. Mardochée refusait, et il avait raison. Cela, entre autres choses, a mis Aman dans une très grande colère et ça a empiré sa haine des Juifs. Il voulait se venger. Et dans sa méchanceté, il élabore un complot pour éliminer tous les Juifs. Et malheureusement, quand il l'a expliqué au roi, le roi Xerxès s'est montré passif, conciliant, je ne sais pas pourquoi, devant ce plan. Personne ne savait que la reine était juive. Il se plia, ce roi, à tout ce qu'Aman avait prévu. Et dans le chapitre 3, on voit que le complot, c'était d'exterminer en un seul jour l'ensemble du peuple juif. Hommes, femmes, jeunes et vieux. Et c'est quand même étonnant. peut-être pas étonnant à cause de la force du mal dans cette emprise du péché sur l'humanité. Les génocides se poursuivent jusqu'à aujourd'hui. Et il y a eu un tel complot, beaucoup plus grand et beaucoup plus terrible contre le peuple juif au milieu du 20e siècle, nous le savons tous, dans l'Allemagne nazie. Mais je peux vous dire une chose. Moi, j'ai des ancêtres pas si lointains qui étaient anti-juifs. J'ai même des ancêtres, ça je sais parce que dans ma famille, il y a eu des recherches généalogiques, des ancêtres qui étaient propriétaires d'esclaves. Je ne suis pas meilleur qu'un autre. À la place d'un Perse, j'aurais peut-être participé à la persécution des Juifs. Mais vous voyez que c'est des situations terribles. Et Aman, lui, était l'instigateur d'un tel projet de massacre. Lorsque Mardoché a appris la nouvelle du complot, qui maintenant devenait politique du royaume, il se lamenta publiquement, revêtu d'un sac, couvert de cendres, et d'autres Juifs se lamentèrent avec lui. Et ils ont prié. Est-ce qu'ils ont se sont rappelés les uns aux autres la fidélité de Dieu? Est-ce qu'ils ont cédé à la panique? Est-ce qu'ils ont crié que Dieu les aide? Peut-être les trois ensemble. Mais des fois, quand on prie vraiment, c'est un mélange de tout ça. On est paniqué, on se souvient des promesses de Dieu, on crie à lui. Et Dieu, il accepte toutes les prières qui viennent à lui du moment qu'elles viennent entièrement du cœur. Dieu permet des situations désespérées dans ta vie et dans nos vies pour que nous recherchions la délivrance que lui seul peut apporter. Et c'est ce qui est arrivé ici à la communauté juive. Maintenant, les serviteurs d'Esther, la reine, l'informèrent du chagrin de son oncle et de son deuil, comme on va dire ostentatoire. Et elle lui fit envoyer immédiatement des vêtements propres. « Oh, ne sois pas triste. Tiens, mets des beaux vêtements. Voyez ici, on lui amène une belle robe verte. » Mais non. Mardoché dit, c'est pas le moment de faire semblant qu'il n'y a pas de problème. Lui a envoyé un message à Esther, sa nièce, pour supplier Esther d'aider à sauver son peuple, lui rappelant qu'elle-même allait mourir parce qu'elle était juive. Mardoché rappela à Esther qu'elle était peut-être devenue reine. Et ça, c'est une phrase du livre d'Esther qui est devenue célèbre, « pour un moment comme celui-ci ». Et des fois, on dit ça entre chrétiens. Peut-être que tu passes par cette difficulté pour un moment comme celui-ci. Ça veut dire que Dieu a arrangé les choses pour t'utiliser dans ce moment. Peut-être que tu as été forcé de venir au Canada pour un moment comme celui-ci. Peut-être que tu as déménagé à Cloverdale pour un moment comme celui-ci. Voyez-vous, c'est ce que Mardoché dit à Esther. C'est pas juste pour ta beauté et pour ton confort que tu es devenue reine, mais c'est peut-être pour un moment comme celui-ci, c'est-à-dire ce moment où Dieu veut t'utiliser pour sauver son peuple. Un autre aspect de ce qu'on voit ici, deuxième leçon, les ennemis de Dieu ne parviennent jamais à contrecarrer le plan parfait de Dieu. Amen. Et ça, c'est censé te rassurer aussi, parce qu'il y a beaucoup d'opposants au plan de Dieu, même dans le monde d'aujourd'hui. Ils ont des plans, Cette semaine, j'ai même vu un panneau de publicité de l'Association québécoise des humanistes. Et en fait, bon, il s'appelle humaniste, oui, mais en fait, je pense que ce sont des humanistes anti-religion. parce qu'il est très possible d'être chrétien et humaniste aussi. Mais eux, leur publicité disait, ou dit, voilà, les gens religieux prient pour des miracles, mais nous, les humains, les vrais humains, humanistes, nous faisons les miracles nous-mêmes. Bon, d'accord. Moi, je pense qu'un vrai humaniste, c'est quelqu'un qui prie et ensuite qui agit. Mais voilà. Donc, on a des opposants même aujourd'hui, mais voyez-vous le genre d'opposition que le peuple de Dieu avait dans le temps d'Esther? Aman avait un plan et bénéficiait du soutien du roi. Mais Dieu est intervenu par l'intermédiaire d'Esther. Et voici comment ça s'est passé. Esther a répondu oui à la demande de son oncle Mardoché. Elle a eu du courage et du discernement et elle a pris une décision ferme. Elle a décidé d'appeler les Juifs de Suse à jeûner et à prier pendant qu'elle allait passer à l'action. Et elle a déclaré ceci, « J'irai voir le roi, même si cela est contraire à la loi, parce que dans l'Empire perse de l'époque, tu ne pouvais pas entrer voir le roi. Il fallait que lui t'invite. » C'était sans invitation qu'elle est allée. Elle a dit, « J'irai voir le roi, même si cela est contraire à la loi du roi. Et si je dois mourir, je mourrai. Si je dois mourir, je mourrai. » Ça, c'est Esther 4, 16. Mais à sa grande surprise, le roi fut ravi de voir Esther et lui offrit un grand cadeau. Et dans une réponse pleine de sagesse, Esther, parce qu'il lui a demandé, « Mais pourquoi, ma belle nouvelle reine, pourquoi es-tu ici? » Elle dit, « Mais j'invite le roi et le premier ministre Aman à un banquet ce soir. » Et Aman était ravi lui-même d'être invité à ce banquet d'honneur donné par la reine. N'oubliez pas, il ne sait pas qu'elle est juive. Il ne sait pas encore qu'il va la détester. Il est ravi de cet honneur. Il ne se doutait pas que la reine venait en aide aux Juifs. Et Aman a quitté la fête très heureux. Il était ivre sûrement. Et Dieu était à l'œuvre. Oups. Attendez. Voilà. Non. Pourquoi il est triste encore ici? Ça, c'est Aman. C'est parce que en sortant de la fête, il avait un gros sourire, il était content, tout était beau, mais là, il a vu Mardoché. Et il lui a demandé de se prosterner devant lui, puis Mardoché a dit non. Puis là, il était fâché encore. C'était ça, cette photo-là, excusez-moi. Mais au même moment Dieu était à l'œuvre, c'est que le soir, la nuit, le roi Xerxès... Est-ce que vous me suivez, tout le monde? Oui, merci pour votre patience. Le roi ne pouvait pas dormir. Alors, il se lève et... Il dit à ses serviteurs, « Pouvez-vous me relire les registres, les annales de mon règne pour me rappeler les merveilles de ma royauté? » Et alors, ils se mettent à lire et là, ils tombent sur le passage. Quel passage? Le passage de « Quand sa vie a été sauvée par Mardoché. » Vous vous souvenez, on en avait parlé? Alors là, OK, là, ça commence à être un peu comique parce qu'il se dit, bien, faut vraiment... Est-ce que j'ai récompensé ce Mardoché? Non. OK, alors là, le lendemain, il appelle son premier ministre et il lui demande « Comment est-ce que je devrais faire pour récompenser un serviteur qui a de très grands mérites, qui m'a énormément aidé? » Alors, Mardoché, pourquoi il sourit? Parce qu'il pense que le roi parle de lui. Alors, il commence à lui dire « Ah, ben il faut faire une grosse fête. Il faut qu'il y ait des mets succulents. Il faut faire une parade. Il faut avoir des habits somptueux. Il faut de la musique. » Et il pensait que la fête allait être pour lui. « Ah, man, tu vas te faire avoir. » Parce que la fête n'est pas pour toi. Peux-tu imaginer sa surprise quand le roi lui dit « Oui, c'est pour le juif Mardoché qui m'a sauvé la vie. » Ah, il était fâché. Et en plus, il a dû envoyer des serviteurs annoncer ça à son plus grand ennemi, Mardoché. Aïe, aïe, aïe. Ce soir-là, la reine fait un autre banquet pour le roi et pour Aman et les autres personnes. Et c'est là qu'elle prend son courage à deux mains et va prendre la parole et dénoncer Aman pour son complot contre Mardoché et contre tous les Juifs. Et le roi, bien sûr, a dû changer de politique et dire « Non, Mardoché représente un peuple que maintenant je veux sauver parce que Mardoché m'a sauvé la vie. » Finalement, eh bien, cette nuit-là, Mardoché est arrêté et il va lui-même être... Oh! Aman! C'est compliqué, mais Aman est arrêté et il va lui-même mourir sur la potence qu'il avait préparée pour Mardoché lui-même. On va conclure. Voici les deux leçons qu'on a vues. Dieu place son peuple et Dieu te place toi là où il faut pour accomplir son plan. Et la deuxième leçon qu'on a vue, les ennemis de Dieu ne parviennent jamais à contrecarrer son plan parfait. Et même jusqu'à aujourd'hui. Et je le répète, nous sommes dans une étape du plan de Dieu beaucoup plus avancé. On est rendu à la fin. Christ est venu. Il a ouvert la porte du salut et du royaume de Dieu à tous les humains. Et maintenant, on envoie des missionnaires dans le monde entier annoncer que Christ peut les sauver. On annonce à nos amis autour de nous, c'est pas compliqué. Reçois Christ dans ta vie. On est dans une étape du plan très glorieuse, mais on va avoir des moments d'épreuve. On va aussi avoir des ennemis, des opposants. Ces deux promesses demeurent là pour toi et pour moi. Amen. Et oui, n'oubliez pas aussi, je vais peut-être juste terminer en rappelant cette expression « pour un moment comme celui-ci ». Pour un moment comme celui-ci. Peut-être que tu passes par quelque chose de surprenant où tu as été placé avec de nouvelles personnes et tu ne sais pas pourquoi, mais c'est peut-être pour un moment comme celui-ci que Dieu t'a mis là. Et peut-être que l'Oasis est ici, dans ce quartier de Pierrefonds, en ce moment, pour ce moment, pour un moment comme celui-ci. Alors, comme Esther, comme les amis de Daniel, nous devons obéir lorsqu'on voit que Dieu a préparé une opportunité pour être son instrument. Même s'il y a des risques, nos vies ne nous appartiennent pas, elles sont à Dieu. Et Dieu nous offrira des occasions uniques pour nous mettre à son service. Voulez-vous prier avec moi? Amen. Courbons nos têtes. Par les leçons que nous voyons cet été dans cette série « Jeunes de foi », elles sont pour nous aussi les grands. Parce que nous, comme les enfants, et parfois plus que les enfants, on a peur. On a peur de prendre des risques. Mais nous aussi, on sait, comme les enfants, que tu es Dieu et que ce que tu nous demandes, nous devons obéir. Peut-être que c'est de parler de Jésus à mon collègue de travail pour la première fois. Peut-être que c'est de faire l'effort dans la prière, de réfléchir à comment inviter cette personne de ma famille pour la première fois à un événement de l'Église. Peut-être que c'est de trouver le moyen de dire non à quelque chose de malhonnête que mes amis ou mes collègues me demandent auquel ils me demandent de participer. Peut-être que c'est de changer d'attitude avec quelqu'un qui m'irrite et de lui montrer de l'amour plutôt que de la colère. Peut-être que c'est quelque chose d'autre. Oh, notre Dieu, nous te demandons au nom de Jésus de nous donner cette même foi que les jeunes de foi, Daniel, David, Esther et les autres que nous allons considérer. Samuel, nous prions toutes ces choses. Nous te faisons confiance. Au nom de Jésus. Amen.